même si ma vision personnelle, c'est l'athéisme, je n'écris pas depuis un point de vue athée, je dirais plutôt que j'écris de prendre un point de vue hérétique, c'est-à-dire que je joue avec des idées théologiques, je suis extrêmement sceptique concernant toute prétention de l'existence, toute idée vivante prétend l'existence du surnaturel, mais je me permets d'admettre que sans l'idée de Dieu, je serais totalement au chemin.
Reference to experiments, the pensée, thought experiments, what Einstein called Gedanken experiments. And I think that the medium of the novel enables me to set up experimental conditions, not unlike the thought experiments of cosmologists and philosophers and physicists.
La façon dont je décris fréquemment mes projets, c'est que je lui rattache un peu des expériences de pensée, ce qu'Einstein appelle des Gedanken. Je pense que le médium du roman me permet d'installer des conditions expérimentales pour dérouler des expériences de pensée, de la même manière que le font les cosmologistes, les philosophes ou les physiciens.
Experiment for Dr. Merchant OCO is simply, well, it's a grand question de la science fiction. What if, what if the divine daughter of Jesus found herself, or the divine sister of Jesus found herself reincarnated in a contemporary Atlantic city? I find that I myself am surprised by the results of my thought experiments. And I think that's all to the good. I've always been impressed by a remark that a Baptist minister made, I can't remember his name, many years ago. He said, if there's a hell, Jesus is in it. That quotation at the time, but I reached the same conclusion. And the second act of Notre Dame de Seal climaxes with Julie Katz meeting her half brother in hell. He's comforting the damned and giving them water laced with opium to put them out of their misery.
Oui, finalement, cette expérience de pensée, c'est la grande question de la science-fiction. Et si, c'est une question qui commence par cette et si. Et dans le cas de ce et si, c'est et si la demi-sœur divine de Jésus se trouvait réincarnée ou incarnée dans l'Atlantic City de nos jours. Et je dois avouer, je suis plutôt surpris par les résultats de ma propre expérience de pensée. Je pense que c'est tant mieux. J'ai toujours été impressionné par une remarque qu'un prêcheur baptiste avait faite. Il avait dit, si l'enfer existe, alors Jésus s'y trouve. C'est une remarque que je connais, c'est pas à l'époque où j'ai écrit notre mère philosophie, mais je suis en fait arrivé à plus ou moins la même conclusion. Dans ce roman, à la fin du deuxième acte environ, le coup de théâtre, la révélation à la fin de ce deuxième acte, c'est qu'en fait Julie Katz, qui est donc la demi-sœur de Jésus, trouve son demi-frère en enfer. Il est là. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il réconforte les damnés en leur donnant de l'eau avec assaisonné de flamme pour leur permettre de leur donner un peu de répit.
On va déranger un autre.
Quand on regarde l'évangélisation de l'Afrique, quand on regarde l'évangélisation du Rive du Nord, quand on regarde just figure. C'est presque axiomatique que la religion peut servir de prétexte à la violence. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le phénomène où la violence peut servir de prétexte pour critiquer, condamner la religion.
Especially in the United States, every time we learn of cruelty accruing to belief in the supernatural. To dismiss it as an aberration. Oh, that's not real religion. When parents of the Christian Science Church allow their children to die, oh, well, that's not really how religion is supposed to work. Or when the church decides that homosexuals and women are less than human, oh, that's not the way it's really supposed to work. And I think trying to vindicate religion relative to its own cruelty is a very dishonest game.
Surtout aux USA, il y a des intéressants quand on entend donc des faits cruels qui se produisent en relation avec la croyance en surnaturel. Les croyants les cartons parlent d'aberration, par exemple, quand des parents de l'Église scientifique chrétienne, si je ne me trompe pas pour la traduction, l'Église scientifique chrétienne voit leurs enfants mourir sans soin, ils disent non, mais c'est pas la religion, c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Quand des autres autorités religieuses condamnent les homosexuels et les femmes en disant que ce sont des sous-êtres humains, d'autres disent non, mais c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Je pense que critiquer la religion en ramenant à son propre rapport à la cruauté, finalement, c'est mener un jeu à tout faire relativement malhonnête.
I was very disappointed by the reaction of many of my fellow writers in the United States to the Charlie Hebdo massacre.
J'ai été très déçu par la réaction de mes collègues écrivains aux États-Unis par rapport aux attentats de Charlie Hebdo.
For example, exercise in the cartoonists than they did lamenting the medieval reasoning of their murderers.
Par exemple, leur ancien journaliste Harold Holmes, pour qui j'ai une grande admiration, ou bien le dessinateur créateur de Tootsbury, Trugot, a passé vraiment beaucoup plus de temps et d'énergie à critiquer les dessinateurs de Charlie Hebdo plutôt qu'à se lamenter du mode de vie, du mode de pensée, pardon, médiéval de leur portrait.
Was not their finest hour. They knew better, but they did not rise to the occasion.
C'était pas leur gloire. Ils normalement sont à notre niveau, mais ils n'ont pas répondu à l'appel.
C'est tout. Pour le podcast, je précise que James Bond vient de sortir un numéro de Charlie. C'est ça. Ce qui est intéressant dans ce Marseille que vous personnage qui choisit de continuer cette voie tracée par le père.
royaume récemment colonisé, on a installé des pensions pour former des jeunes qui ont fait une stratégie du pouvoir pour les éloigner de leur famille et pour pouvoir les conditionner plus facilement dans un emploi. Et Nouni, elle allait rester en bonne élève de la vie près de son père, elle va lui succéder. Et on se rend compte petit à petit dans cette famille. En fait, la famille est un instrument au service du pouvoir. Et le père est un personnage assez monstrueux qui voilà, estime que la communauté doit être servie et que ses filles sont là uniquement pour ça. Et Nouni, du coup, à la fin, dès le départ, elle rencontre un espion d'un royaume voisin avec lequel elle est obligée de voyager à un moment donné. Et donc, partie du roman tient justement sur cette confrontation en fait, entre ces deux points de vue là-dessus. Et elle est accrochée à sa foi de manière très forte et elle est quand même obligée de voir la vérité au bout d'un moment donné.
Quand on est très idéaliste, c'est exactement le
oui, elle est adolescente. Hein. Non, elle est très idéaliste et en même temps, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui a beaucoup de douleur, mais qui a cette cette actrice, mais elle se rend compte en fait des contradictions entre les valeurs qu'on a inculquées et ce qu'on fait le pouvoir. Et du coup, elle est dans cette espèce de dilemme permanent et finalement elle va choisir les valeurs qu'elle défend. Et elle a aussi ses côtés voilà, très conditionnés, etc., pleine de préjugés. Et petit à petit, par le voyage, elle va rencontrer la vérité tout simplement et évoluer énormément.
Et puis, découvrir effectivement le respect de l'autre et de ce qu'on leur montre pour but not for the coming of silence. Le siècle des lumières.
Pour ce qui concerne, j'ai vu tout venir. Bon, plus important de la chasseur de sorcières, en fait, ça parle d'un moment de l'histoire humaine qui, pour moi, est absolument extraordinaire. Il s'agit de la croyance dans les sorcières, donc les codes de la chasse aux sorcières, et il s'agit de l'argument selon lequel, finalement, ce n'est pas seulement un jeu d'idées théologiques, mais c'est une vision du monde. Vertrand Schwann.
Je vais juste préciser qu'on est à cheval sur le 17e et le 18e siècle.
Et cette vision du monde, en fait, aurait fini par détruire littéralement la société européenne à cause des procès en sorcellerie et de la chasse aux sorcières. S'il n'y avait pas eu l'arrivée de la science et du siècle de lumière.
The Enlightenment, is sure, has its critics. Postmodern academics can't seem to get over the French Revolution. What a disconnection between intention and result. It's always exhibit A in any indictment of the Enlightenment as the French Revolution. Nevertheless, whatever you think of the Enlightenment, it came along when we needed it. Because Europe had gone mad. The Renaissance was an insane time. We think of it as nothing but the flourishing of the arts and the recovery of classical antiquity. Well, that's very well if you're an artist or a scholar. But if you were a fortune teller, or a midwife, or you practiced herbal healing, you were vulnerable to the charge of having signed a pact with the devil.
Autrement, les siècles des Lumières, la critique principale pour Lulas vient de l'universitaire postmoderne qui n'arrive pas à se remettre de la Révolution française. Quelle terrible déconnexion entre l'intention et le résultat. Et quand on veut critiquer la Révolution française, en général, on l'écarte en disant « Ah, oui, il y a eu la Révolution française et tout ces atrocités, donc forcément, c'était une mauvaise chose. Mais là, c'est extrêmement simpliste, et ce qu'on doit dire du siècle de lumière, c'est qu'il est arrivé quand on en avait besoin. Et heureusement, parce que sinon, l'Europe aurait totalement perdu la raison. Il faut se rendre compte que la Renaissance était une période totalement cinglée. On la voit souvent comme le moment où l'on est revenu au classique antique. On la voit comme une période d'épanouissement et de florissement de l'art, ce qui est effectivement juste et très bien si vous étiez un artiste ou un érudit. Mais si vous étiez un artisan de bonne aventure, une sage-femme, un herboriste, ce genre de choses, vous aviez un danger très réel qui est d'être accusé d'avoir conclu un pacte avec le diable.
Without doubt, there is no hope.
Sans le doute, l'histoire n'est pas possible.
J'ai réfléchi ce soir. Sur l'ordre des échos, on est dans cette ville de Marseille qui se retrouve dans cette situation très particulière, très explosive. Et puis on a toutes ces remises en question, et là encore finalement, c'était pas forcément le geek qui intervient, parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais chacun, à refaire ces événements, retrouve finalement le fil qui s'était tracé, remis en cause par les situations, par l'évolution de la situation dans la ville.
Oui, c'est le moment en fait, c'est pas remettre en cause déjà leur situation de façon pratique. Oui, mais c'est pas moi. Notamment qu'une des personnages, effectivement, n'est pas là, pas du tout par hasard. L'enjeu, c'est ça, c'est qu'à un moment, sa lumière a en danger, et deux, ça va aller de façon plus intime, ça va remettre en cause leur croyance au sens large. C'est-à-dire que pour les religieux, c'est réellement la question de la religion qui est posée pour eux, sans y remettre en cause la religion catholique et le fait qu'ils avaient placé dedans. Pour le chevalier, c'est je suis quand même quelqu'un qui est déconfié.
ces souches, si vous voulez, génétiques se sont mélangées. Et c'est un gène récessif, ce qui fait qu'il faut que les deux parents soient porteurs eux-mêmes des gènes pour que l'enfant naisse avec le sang bleu. Mais au départ, c'était la même âge de la noblesse, hein, et au fur et à mesure, les guerres, les bordels militaires de campagne, voilà, tout ce qu'on peut imaginer, le gène, c'est diffusé dans la population. Le problème, c'est que ce caractère, qui est une chance finalement sur le plan physique, parce qu'ils sont beaucoup plus forts que vous et moi, sauf si vous avez le sang bleu vous-même. Et donc, et bien, cette chance-là, qui était l'apanage d'un certain nombre de nobles, est devenue un attribut de Satan, en quelque sorte, parce qu'il fallait justifier la suppression de ceux qui naissaient avec cet avantage évolutif dans le peuple, pour pas qu'ils conteste un jour effectivement le pouvoir. Et donc, on va tester l'enfant, les gens le sang, comme on le fait encore aujourd'hui à la naissance, pour la raison. Eh bien, on va tester le sang des enfants à la naissance, et naturellement, les nobles vont être très bon oeil pour supprimer les enfants du peuple qui naissent avec le sang bleu, ils n'ont pas très envie qu'on brûle les leurs. Et ce faisant, quand les enfants vont donc naître dans la noblesse, on va les cacher effectivement dans un certain nombre de centres, et on leur donnera donc des rôles sociaux dans l'ombre, donc pour pouvoir ne pas traiter les enfants, ses propres enfants au niveau de la noblesse. Et donc, les femmes effectivement qui naissent comme ça vont rester dans des espèces de couvents, qui vont retenir les couvents au sens de la couvent de couveuse presque. Alors que les enfants de la noblesse vont être retirés de leur famille, ceux qui naissent avec le sang bleu, et être mis effectivement dans cet espace-là. Un espace où ils sont élevés par les femmes au sang bleu qui sont cachées. Voilà. C'est la noblesse. Oui, c'est angoissant parce que ça renvoie, alors même si c'est pas du tout la même problématique que dans la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même quelque chose qui revient un petit peu autour de ces questions-là. Par exemple, on verra plus tard dans le livre, hein, dans le thème suivant, je pense que c'est ça que tu faisais peut-être allusion. À un moment donné, on va essayer de recroiser les sangs pour retrouver, finalement, refabriquer une population au sang bleu. Et on va donc fabriquer des fermes d'élevage, hein, dans lesquelles on va regrouper des gens qui sont les plus proches au sein bleu, en reconstituant une généalogie de l'intégralité de la population, et on va les élever un peu de la même manière que Hitler faisait élever donc des blancs aux yeux bleus dans un certain nombre de fermes d'élevage, dans lesquelles il y avait donc les capitaines SS blancs aux yeux bleus qui avaient saillé un certain nombre de fermes avec cette caractéristique génétique. Cette idée-là, naturellement, c'est pas moi qui l'ai eue, d'autres sont aussi tordus que moi, et donc on est en priorité de cette idée-là. Oui, absolument. Et ils ont compris que derrière ça, ce sont des enjeux qui sont des enjeux idéologiques. À partir du moment où on a donc une supériorité fantasmée, comme par exemple les Aryens, on peut mettre en œuvre ce qu'on peut pour façonner les sociétés. Dans le livre, c'est quand même assez différent, parce que ce qu'on veut, c'est une armée. Et les gens qui naissent avec le sang bleu ont une supériorité qui est objective, hein, qui n'est pas d'objective, une supériorité fantasmée comme dans la Seconde Guerre mondiale. Ce qui veut dire que là, on pourrait effectivement, on a déjà parlé dans des lecteurs notamment, y voir dans les déportations, y voir dans les massacres de masse, y voir dans l'élevage avec une espèce de centure, si on peut en faire son place, de race supérieure, on pourrait y voir effectivement une allusion au Troisième Reich, mais il y avait les moyens qui mis en œuvre éventuellement qui sont de cet ordre, mais pas du tout l'idée de départ. Le départ est pragmatique. Dans l'ordre de la croyance, pour revenir sur les fins de religion, une croyance différente, une croyance dans laquelle Dieu est personnifié et dans laquelle les élus sont une race particulière. C'est quand même sensiblement différent dans le sens de cette foi, c'est pas tout à fait la même chose. Mais les moyens, bon, je ne contesterai pas le fait que c'est tout à fait le même.
Au terme de cette table ronde, je voulais quand même poser une dernière question à James Bond parce que j'ai évoqué Jimmy, mais je voulais évoquer un autre personnage parce que dans le dernier chasseur de sorcières, il y a quand même une collection de fanatiques assez intéressante. Mais il y en a une qui est un peu particulière, c'est Abigail. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage?
Abigail of the Salem Witch Trials. She was a tragic figure who was caught up in this tissue of delusion, and as I say, And I will see again tomorrow night when I introduce the film, Mosocina. When you are inside the witch universe, it's very hard to think your way out of it. Demons were in the air that people breathed in the Salem of 1692. Demons were in the water that they drank. And while Abigail ultimately becomes a villain, I also have sympathy for her. I think that the measure of a person's worth as a fiction writer is the villains, not the heroes. I can give credence to people of faith. I feel I've done my job properly.
Donc, Abigail dépend sa sorcellerie de Salem. Pour moi, en fait, c'est une figure tragique qui se trouve entraînée dans un réseau d'illusions et de folies collectives. Et bon, c'est quelque chose que je retire demain quand je présenterai le film La Sorcière. Mais une fois, quand vous êtes au cœur de ce monde de la chasse aux sorcières, c'est extrêmement difficile de s'en sortir par la pensée pure. Il faut souvent voir que à l'époque, cette époque de croissance sociale en 1662, pour les gens, les démons se trouvaient dans l'air qui respirait, ils se trouvaient dans l'eau qui buvait. Donc, même si Abigail est une antagoniste, une méchante dans l'histoire, en fait, j'ai de la compassion pour elle. Je pense que on trouve la mesure d'un écrivain de fiction, pas tellement dans ses héros, mais dans ses méchants. Et ma foi, si je peux réussir à rendre un personnage comme ça crédible, peut-être que j'ai réussi à faire mon coup.
Ce qui veut dire, c'est que c'est un véritable personnage à la base. Au moment où elle est sortie de Salem, elle était une petite fille.
Yes, yes. And I guess she comes of age and comes back into the plot in ways that are my own invention. Yes, yes. The novel has many figures drawn from history. Isaac Newton, Benjamin Franklin, Montesquieu becomes the primary attorney for the defense of my heroine when she very bravely puts herself